Bonjour, ici Oscar, Sarah et Louis pour l'HGSP. Aujourd'hui, dans le thème « Faire la guerre, faire la paix », notre regard se porte sur la première guerre du Golfe, et plus particulièrement du fait ou non que cette guerre est une guerre modèle, donc selon le modèle clausewitzien. Pouvez-vous nous expliquer les origines et le contexte de la première guerre du Golfe ?
Alors, tout d'abord, l'origine de la première guerre du Golfe provient d'une autre guerre qui oppose l'Irak à l'Iran et qui dure 8 ans de 1980 à 1988 suite à une révolution qui mène au pouvoir un chiite, l'ayatollah Khomeini.
Mais Louis, qui est l'ayatollah Khomeini et qu'est-ce que le chiisme ?
L'ayatollah Khomeini est un haut dignitaire religieux chiite qui prendra le pouvoir en 1979 suite à la révolution iranienne. Et le chiisme est une branche de l'islam qui s'oppose au sunnisme, où le sunnisme est majoritaire dans le monde à 80%, et donc le chiisme est donc minoritaire à 20%. Le chiisme est majoritaire en Iran, ce qui est une source de tension au Moyen-Orient.
Mais à quoi mène cette guerre entre l'Irak et l'Iran ?
Cette guerre mène à que l'Irak a une dette envers le Koweït, ce qui va provoquer des tensions entre ces deux derniers pays. Et donc Sarah, peux-tu nous donner les raisons de la première guerre du Golfe ?
La guerre débute le 2 août 1990 avec l'invasion du Koweït menée par Saddam Hussein. En une journée, la résistance est anéantie.
Mais qui est Saddam Hussein ?
C'est le dirigeant de l'Irak de 1979 à 2003. Ce dictateur contrôle l'Irak durant la guerre Irak-Iran et la première guerre du Golfe.
Et pourquoi envahit-il le Koweït ?
L'Irak envahit le Koweït pour deux types d'enjeux. Premièrement, pour des enjeux territoriaux. La frontière entre le Koweït et l'Irak a toujours été floue à cause d'un passé colonial qui n'a jamais permis de la délimiter. Le Koweït est aussi considéré comme la 19e province irakienne. Et de plus, le Koweït offrerait une position stratégique à l'Irak puisqu'elle est en bord de littoral. Ensuite, l'Irak est poussé par des enjeux économiques. Le Koweït est aussi riche en hydrocarbures et a augmenté sa production de pétrole qui a entraîné une chute du cours du brut et qui pénalise donc financièrement l'Irak. Pour finir, le Koweït refuse d'effacer la dette que l'Irak lui doit et qui s'élève à 15 milliards de dollars. Mais du coup, Louis, quelles sont les réactions dans le monde ?
Les réactions dans le monde sont que l'ONU autorise une coalition de 35 pays menée par les Américains, qui est la plus grande coalition depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette coalition lance le 6 août 1990 l'opération Bouclier du désert qui lance un ultimatum à l'Irak, celui de quitter le Koweït avant le 15 janvier.
Mais en quoi consiste l'opération Bouclier du désert ?
L'opération Bouclier du désert consiste à protéger les pays frontaliers de l'Irak, notamment l'Arabie Saoudite qui a beaucoup de pétrole, et consiste à demander à ce que l'Irak quitte le Koweït. C'est une phase un peu défensive menée par la coalition.
Et qu'est-ce qui se passe ensuite ?
Alors, ensuite, l'Irak refuse l'ultimatum, alors le 17 janvier, la coalition lance l'opération Tempête du désert.
Mais en quoi consiste l'opération Tempête du désert ?
L'opération Tempête du désert représente plus la phase offensive de la coalition, qui durera plus de 6 semaines, où il y aura 6 semaines de bombardement. Puis la coalition lance une invasion terrestre sur le Koweït, qui durera 4 jours, du 24 au 28 janvier.
Est-ce qu'il y a des réactions suite à ces attaques ?
Oui, il y a des réactions. C'est-à-dire que l'Irak va bombarder Israël en réaction, qui est l'Israël qui est l'allié des Américains. Et c'est aussi pour bien se faire voir auprès des pays du Moyen-Orient. Et donc l'Irak va faire exploser des puits de pétrole en réaction. Et donc Oscar, dis-nous, qu'est-ce qu'il se passe après la guerre ?
La fin de la guerre mène à la fin de la coalition. De plus, les États-Unis, dirigés à ce moment-là par George Bush, ne veulent en réalité pas arrêter la guerre, et plutôt renverser complètement Saddam Hussein.
Mais qui est George Bush ?
George Bush est le président des États-Unis de 1989 à 1993, donc pendant la guerre du Golfe, et il représente le parti républicain des États-Unis.
Et donc comment réagit l'ONU ?
L'ONU n'intervient pas. Et les États-Unis poussent les Kurdes et les chiites opprimés en Irak à se révolter contre Saddam Hussein.
Mais pourquoi les Kurdes et les chiites sont-ils opprimés ?
Les chiites sont opprimés car Saddam Hussein est sunnite. Et les Kurdes, eux, sont également opprimés car ils veulent leur indépendance et car Saddam Hussein la refuse catégoriquement. Louis, peux-tu nous rappeler la problématique que nous nous posons ?
Alors, la problématique est de savoir si la première guerre du Golfe est une guerre modèle ou non.
Mais qu'est-ce qu'une guerre modèle ?
Alors, une guerre modèle est une théorie de Clausewitz, est un officier du 19e siècle prussien qui a connu les guerres napoléoniennes, qui a écrit un livre de la guerre en 1832, dans laquelle il donnera la théorie de la guerre modèle, qui est une guerre interétatique, c'est-à-dire entre deux États ou plusieurs États, qui est une guerre symétrique où les États ont à peu près les mêmes forces et qui a pour but des objectifs politiques, c'est-à-dire de prendre des territoires ou une suprématie sur une région. Ces guerres-là ne veulent pas la destruction totale de son adversaire. Alors tout d'abord, on peut dire que oui, c'est une guerre modèle, car c'est une guerre à des objectifs politiques, c'est-à-dire que l'objectif c'est le territoire du Koweït et rien d'autre, où les Américains ne vont pas jusqu'à Bagdad pour renverser le régime de Saddam Hussein. De plus, ce sont des armées régulières, du coup symétriques, entre deux États, entre la coalition et puis l'armée de Saddam Hussein. Enfin, ce n'est pas une guerre d'anéantissement, car la guerre est rapide et sur le papier fait peu de morts. Mais nous voyons aussi que c'est une guerre qui n'est pas forcément modèle. Et du coup, Sarah, Oscar, pouvez-vous nous dire pourquoi c'est une guerre pas forcément modèle ?
Effectivement, la première guerre du Golfe s'éloigne du modèle clausewitzien par le fait que c'est une guerre asymétrique. Elle est asymétrique car l'armée irakienne est bien plus puissante que celle du Koweït et car la coalition de l'ONU est également bien plus développée et grande que l'armée irakienne. On parle de 900 000 soldats contre 500 000 militaires irakiens. Deuxièmement, on peut également la qualifier de guerre jeu vidéo car elle a été filmée et diffusée pour la rendre propre aux yeux des autres pays. Mais Sarah, n'y a-t-il pas d'autres faits qui nous montrent que la première guerre du Golfe s'éloigne du modèle clausewitzien ?
Effectivement, tout d'abord, les deux points que tu viens d'évoquer renvoient à la guerre hybride. La guerre hybride, c'est une stratégie militaire qui allie des opérations de guerre conventionnelles, des guerres asymétriques, de cyberguerre et d'autres outils non conventionnels tels que la désinformation. Et la désinformation, c'est le fait de persuader l'opinion publique que c'est une guerre propre, qu'il y a seulement des militaires victimes. Pour finir, on peut aussi dire qu'elle se détache de la guerre modèle à cause des 35 000 à 45 000 civils morts durant l'intervention des États-Unis.
Thank you.